Depuis plus de 40 ans, Aligre FM, votre radio culturelle, vous propose des programmes diversifiés, sans aucune interruption publicitaire. Parce que cette radio est la vôtre, vous pouvez nous aider. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site aligrefm.org. Découvrez nos podcasts et laissez-vous guider pour faire un don en cliquant sur le lien en bas de page.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour, nous sommes mardi matin sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et ce matin, nous avons pour commencer un invité qui va nous parler d'un problème qui concerne un cinéma associatif qui était occupé. Enfin, c'est assez compliqué. Le cinéma s'appelle La Clé. Et je vais lui passer la parole. Il s'appelle Derek Wolfenden. Salut Derek, à toi de jouer.
Bonjour et merci à La Vie est un roman de m'accueillir. Surtout que je sais que j'ai remplacé de la musique. Alors je vais essayer d'être chantant pour la remplacer, pour que les auditeurs et les auditrices ne m'en veuillent pas. Alors voilà, la situation de La Clé, c'est très particulier puisque voilà, il y a une vérité ou une contre-vérité qu'on ne veut pas entendre. Et je suis un peu l'un des rares représentants avec du coup mon collectif pour essayer de dénoncer ce qui est en train de se passer. Donc il y a réellement un scandale au cinéma La Clé qui est caché par les politiques et par les médias. Et voilà, je suis là pour rendre compte. Donc je parle en tant que fondateur de l'occupation du cinéma La Clé, donc de 2019 jusqu'au 1er mars 2022. Je parle aussi en tant que cinéphile averti et éclairé par cinéma que j'ai fréquenté dans les années déjà 90. Donc c'est à l'époque où ce cinéma est réellement devenu associatif, parce que c'est un cinéma qui est né dans les années 70 et est devenu associatif en 1990. Et aussi en tant qu'ancien ancien président à l'époque de sa légalité, donc de 2010 à 2015, quand ça a été repris, mais resté associatif par l'équipe qui ensuite m'a fait travailler. Donc là, j'ai dû démissionner de la présidence. Et donc, de 2015 à 2018, je parle aussi au nom en tant qu'ancien salarié et aussi en tant que président de l'association et de créateur de l'association donc, qui a fondé l'occupation et qui a été manipulé puis bafoué par une association opportuniste dont certains membres étaient là assez rapidement dès le début de l'occupation. Mais pas dans sa création qui a été évidemment en coulisses via une association de milieu squat qui s'appelle Curie Vava, où l'occupation a été orchestrée et réfléchie dans un endroit très chouette qui s'appelle le Shakirai, qui existe d'ailleurs toujours, qui existe depuis 2011, et on fait plein d'événements réguliers là-bas, c'est dans le 18e. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je parle aussi en tant que membre maintenant malheureusement de La Clé Survival, à ne surtout pas confondre avec La Clé Revival, dont on entend beaucoup parler en ce moment via le soutien complètement berné et dupé du pauvre monsieur Scorsese qui semble se faire vieux, surtout qui défend derrière La Clé Revival qu'il est en train de défendre, il soutient, je pense malgré lui, une idéologie sectaire assez radicale à qui a permis malheureusement l'annulation de la séance de Jodorowsky, donc sous la gérance de La Clé Revival, les 4 derniers mois de l'occupation. Homme cinéma à occuper, dont je préside et je suis le porte-parole, mais surtout aujourd'hui qui est devenu la clé survival, pour contrer la clé revival. On a occupé 2 ans et 1 mois, donc c'est de la labeur, c'est de la créativité, c'est plein d'initiatives, voilà, comme des ateliers jeunes publics, c'est un fanzine hebdomadaire, c'est un livre, c'est des séances évidemment tous les jours à prix libre, c'est 2 radios pendant le confinement, c'est une projection en plein air, c'est un laboratoire photographique, c'est des cinétracts qu'on appelle copyfight, puisque c'est basé sur le détournement d'images pour vulgariser notre lutte. Bref, c'est extrêmement compliqué. Donc, si vous voulez en savoir plus, lisez réellement, sincèrement et pas en diagonale pour vraiment comprendre une lutte très complexe. Il faut lire déjà le résumé de la situation sur le site La Clé Survival. Donc, je répète, à ne pas confondre avec La Clé Revival. Et là, vous avez pour en savoir plus ensuite, c'est le communiqué de mars qui est très éclairant sur les méthodologies adoptées par cette association d'arrivistes, carriéristes, donc La Clé Revival. Et vous avez aussi la chronologie très détaillée. Voilà, pour en savoir plus, si vous avez plus un aspect historien, vous voulez en savoir vraiment plus sur l'histoire, mais comment c'est possible concrètement. C'est très éclairant, voilà, sur comment le milieu associatif est mis en danger, au-delà des bâtiments, au-delà du squat, au-delà de tout ça, c'est aussi au niveau de nos valeurs personnelles, comment le néolibéralisme, finalement, s'est sournoisement introduit, voilà, dans les milieux dits alternatifs, voire associatifs. Sinon, voilà, pour en dire aussi, pour décrire un peu plus peut-être les méthodologies qui sont à l'œuvre dans ce type dans les milieux associatifs, je pense que je suis obligé d'en dire un peu plus par rapport à ça. Donc, La Clé Revival, voilà, il y a Homme Cinéma, en gros, Homme Cinéma Association de septembre 2019 à octobre 2021, 2 ans et 1 mois. C'est repris ensuite par l'association La Clé Revival, donc novembre 2021 jusqu'au 1er mars 2022. Comment on en est arrivé là? Alors, du coup, c'est les méthodes, voilà, comment elles se sont opérées au sein de l'association, donc au sein même du cinéma qui était du coup occupé. Donc l'ennemi n'était même plus à l'extérieur, elle était carrément à l'intérieur. C'est conspirer pour diviser, discréditer, diaboliser, puis détruire humainement et politiquement les leaders d'une lutte symbolique et de ses camarades pour vulgairement spéculer sur l'objet de celle-ci. Ensuite, c'est récupérer et usurper l'identité d'une association pionnière. Alors là, je mets une note en bas de page. C'est en gros, La Clé Revival, au départ, c'est le nom du lieu qui notifie l'occupation, c'est-à-dire que le cinéma s'appelle Cinéma La Clé. Pendant l'occupation, il s'appelait La Clé Revival. L'idée géniale pour dissimuler la scission et récupérer nos armes de combat, c'est s'appeler l'association La Clé Revival. Comme ça, personne ne comprend plus rien et on se dit que c'est toujours les mêmes qui sont là. Donc, fin de note en bas de page. Donc, c'est détourner une lutte sociale et culturelle pour récupérer un bâtiment sous l'égide de ses ambitions professionnelles. Donc là, petite parenthèse, notre lutte a toujours été désintéressée. C'est comme ça qu'on a pu mobiliser et fédérer le quartier, mais aussi plein de corps de métiers différents. Et eux, du coup, ils ont transformé cette lutte désintéressée en lutte où ils vont gérer un cinéma professionnellement. Donc, nous, c'était ça la beauté du geste. C'était qu'on partait, en fait. C'était pour représenter le milieu squat en disant et contrer les préjugés à l'envers du milieu squat, enfin envers le milieu squat en disant eh ben non, on n'est pas des voleurs de bâtiments, au contraire, là c'est un bâtiment qui nous touche parce que c'est un bâtiment associatif et nous on se défend les milieux squats en association et on refait travailler les anciens salariés du cinéma, dont excepté-moi évidemment, sinon c'était pas crédible, on refait travailler les anciens salariés ou une autre association dédiée à l'exploitation des films en salle et surtout on fait 8 séances par jour, donc historiquement c'est 8 séances par jour, au lieu que d'une seule. Donc là, avec l'association en cours qui est en train de racheter le bâtiment, c'est une seule séance, privatisation de tout le bâtiment pour leurs ambitions personnelles. Donc c'est là où c'est complètement, le combat est complètement truqué en fait, et il faut le dire, et aussi il y a un partenariat caché qui est assez étonnant parce que toute la presse apparemment est complice. Il y a une fuite par Le Monde en septembre dernier, relayée dans la même période par Débordement et Chaos Règne, comme quoi il y aurait un partenariat avec Netflix et notamment avec un certain Pascal Breton. Et c'est étonnant, c'est qu'aucune presse là, de tout ce qui du tointouin qu'il y a eu avec ce rachat, donc avec ce contrat de vente, personne ne reparle de Netflix et c'est très inquiétant parce qu'il y a toute la complicité du milieu du cinéma, des starlettes comme Amal Rik, Jaoui et compagnie, et personne ne parle de ça et surtout personne ne veut nous écouter. Enfin, il y a vraiment, moi j'ai été contacté par De Presse, donc une Estelle Dautry, je crois, du Parisien. Et oui, donc du coup, je vais devoir faire court. Et en tout cas, je demande un soutien énorme de tous les corps du métier du cinéma qui ne sont pas encore manipulés ou corrompus pour faire front à des méthodes, voilà, qui n'hésitent pas à utiliser la diffamation ou la manipulation. Merci beaucoup, voilà, à l'émission La vie est un roman.
On vous mettra sur la page podcast le lien pour que vous puissiez vous renseigner et lire tous les renseignements sur l'occupation et ce qui se passe en ce moment au cinéma La Clé. Maintenant, nous allons entendre un interview de Nicolas Le Flaec qui a annoté et sorti le très beau livre de Jean-Patrick Manchette sur les entretiens qu'il avait donnés à tout niveau. Enfin, c'est 28 entretiens, c'est très très bien. Donc, nous allons écouter maintenant parler Nicolas Le Flaec. Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et je suis, moi, à Paris et je vais parler avec Nicolas Le Flaec qui est à Bordeaux. Et nous allons parler de l'édition qui vient d'établir et de présenter des entretiens de Manchette. Derrière les lignes et demi entretiens, 1973-1993, 28 entretiens, c'est bien ça. Et donc, je l'ai sollicité pour parler d'un aspect particulier à l'intérieur de ces entretiens, hein, parce que les entretiens, ça marche très bien, ça a été très largement couvert par la presse et ça le mérite, c'est un très, très bel ouvrage, tout à fait sans prix critique à en faire. Et ce qui m'intéressait, c'était le rapport de Jean-Patrick Manchette avec le situationnisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport? Comment naît ce rapport? Comment il se développe? Quelles sont ses différentes étapes?
Alors, bonjour. Merci d'abord de m'accueillir dans votre émission. On pourra en dire beaucoup de choses parce que finalement, c'est quelque chose qui traverse l'œuvre de Manchette. On le voit assez bien, si vous voulez, avec, par exemple, si on compare le journal. Qui est sorti chez Gallimard il y a quelques années déjà et qui couvre les années 66-74. Les entretiens, d'une certaine manière, et la correspondance prennent un peu le relais du journal, du point de vue de la chronologie. Et on voit que finalement, il est aussi bien dans le journal dans les années 60 que dans la correspondance et les entretiens dans les années 90. Il est souvent question du situationnisme et notamment de Guy Debord. Donc, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de choses à en dire. Dans le journal, on voit que Manchette, au début de l'année 1968, année fameuse et importante, évidemment, au début de cette année-là, alors que c'est un jeune homme, il découvre avec un vif intérêt les numéros de l'international situationniste. Alors, il commence d'après le journal par les numéros, je crois, 6, 7 et 8. Et après, il est plutôt intéressé, donc il va commander les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il remonte un petit peu le fil de la numérotation comme ça. Et voilà, ça l'intéresse et ça le nourrit au milieu de plein d'autres choses, parce que c'est une période, les lecteurs du journal le savent bien, et ceux qui ne le connaissent pas, je les invite à découvrir, c'est un super texte. C'est une période de formation intellectuelle vraiment très, très riche. Il y a dans cet ouvrage beaucoup de références, de lectures. On se demande même comment il arrive, si vous voulez, à lire et à autant de choses, en fait, et à emmagasiner autant d'informations durant ces années-là. Donc, il y a des choses sur l'IS, mais il y en a aussi beaucoup, par exemple, sur Hegel. C'est d'ailleurs, ça pourrait être un autre point de comparaison. Je crois que vous avez déjà parlé des ouvrages de la BNF sur les fiches de lecture de Guy Debord. Il y a un Marx-Hegel, fiche de lecture Marx-Hegel. On pourrait faire un Marx-Hegel-Manchette aussi, ça marcherait bien. Il y a des points communs.
Oui, et donc, alors, il y a un aspect anecdotique. Debord va nier l'existence de Manchette, pensant que c'est un pseudonyme d'un ancien camarade de jeu à lui, Guy Debord, donc de François Georges, un camarade de jeu qui, de 1965, avec qui, comme toujours, Debord s'est fâché.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc, qu'est-ce qu'il en est, Manchette, au courant? Comment est-ce qu'il réagit?
Alors ça, je sais pas du tout, effectivement. Alors moi, j'ai découvert ça en parcourant la correspondance de Guy Debord, et j'ai été vraiment stupéfait, quoi, en voyant qu'il y avait un déni, en fait, de Debord qui s'obstine. Alors je sais plus, c'est pas Jean-Pierre Georges, je crois qu'il s'obstine à dire
Jean-Pierre
Manchette
Georges, oui.
n'existe pas, c'est un pseudonyme de Jean-Pierre Georges. Et alors même qu'à un moment donné, je crois qu'il est contacté par les éditions Champ Libre qui veulent lui transmettre une mise en garde de Manchette concernant un ouvrage sur les Bovici, il s'obstine encore à dire « je persiste, ça n'est pas, c'est Jean-Pierre Georges ». Je crois qu'à un moment donné, Semprin aussi lui écrit pour lui parler de Manchette. Et donc, eh ben voilà, il s'obstine. Alors, c'est assez fascinant. Je ne sais pas sur quoi il se basait précisément, Guy Debord, pour ça. Et j'ignore si Manchette le savait
Alors, j'ai demandé à Jean-Pierre Bouixou, je ne sais pas si vous savez qui c'est.
Non, dites-moi.
Alors, vous chercherez. Et
Ouais.
ça faisait rire Manchette.
Ah, ça
Donc,
faisait rire.
à 78 ans, vous regarderez, je ne sais pas s'il a une page Wikipédia, mais sinon, vous me demanderez des renseignements. Mais donc, j'ai demandé à quelqu'un qui est contemporain.
Ouais, ça m'étonne pas que ça me fasse rire.
Et donc, oui, alors on comprend bien s'il a commencé, je m'étais égaré parce qu'il y avait. J'avais compris qu'il avait commencé à rentrer dans l'IS par les 5 premiers numéros, mais s'il rentre avec 7, 8, 6, 7, 8, effectivement, il est tout de suite dans un tissu qui est très politique. Les rapports à l'art sont finis, tout ça. Et donc,
Voilà, c'est exactement ça.
on remarque qu'on est dans l'entretien sur d'une autre, dans une autre matière, oui.
C'est ça, bah, j'ai retrouvé, si vous voulez, pour vous voyez, c'est donc janvier 68, lu très vite les Yes 6-7-8, et 21 janvier 68, reçu hier les numéros 1, 2, 3, 4, 5 de l'IS.
Ah oui,
Je
il
lis.
m'a fond.
Ouais, drôle de voir des gens qui sont partis de l'art pour arriver à une position révolutionnaire. Au début de leurs travaux, il y a beaucoup de saugrenues, beaucoup aussi de courtes vues, d'utopisme artistique, de la faiblesse théorique. On voit s'affronter des opinions très diverses, ce qui n'est plus le cas. Oui, déjà capable de mesurer une évolution à travers les numéros.
Alors, il est très bon dans sa propre évolution aussi. Sa propre autocritique est absolument formidable. Il est d'une lucidité complètement hallucinante. Et est-ce que vous avez regardé l'illusion tragique illustrée
Non, je l'ai pas, j'ai pas cette
de
ouvrage.
Bruce Gray à la première occasion? Ça ne doit pas être très courant, mais enfin, on trouve des choses dans les bibliothèques en général.
Ouais.
Je pense que ça vaut la peine pour vous de voir ce qu'il faisait, faisait Georges dans Manchette pour
Ouais.
Debord. C'est quand même assez intéressant et je pense que le jour où il y aura une biographie de Manchette, elle sera absolument passionnante. Parce qu'alors, il y a un autre épisode, c'est assez hallucinant. Ce qu'on lit dans les entretiens, c'est que les Bovici se fait assassiner. Ça a un fort impact sur Manchette. Manchette arrête de boire, finit à l'HP parce qu'il a arrêté de boire. Donc, ça, quand même, c'est un destin, c'est un petit peu comme. C'est quelque chose de certain mystique, la rencontre d'un mystique avec un texte. Là, on a un corpus que Manchette rencontre. Et qui a quand même une très très grande importance, une importance pas appro-situationniste, reste appro-situationniste. Ah oui, je ne sais pas si aussi la dimension dans votre thèse, est-ce que vous avez mentionné que prostituée était une insulte?
Alors, en fait, je ne l'ai pas mentionné comme ça, mais en fait, je pense que Manchette le sait bien, puisqu'il l'utilise, donc il se présente parfois
Il est
comme un
très très bon dans
prostitué, mais
l'autocritique.
avec une toujours, des fois il dit, je suis une vieille starlette prostituée, ou
Non mais c'est mon
toujours avec une
cliché.
part d'autodérision, vous voyez, qui montre
C'est les
bien
thèses qui sont Manchette qui m'excitent. Est-ce que vous avez regardé comment ça s'appelle le sanguinetti de Bord sur la dissolution de l'IS?
j'ai pas.
Non, il y a le procès des prostituées. C'est là que ça se
Ouais,
passe.
ouais, oui. Ben oui. Bah, chez Manchette, il y a toujours de toute façon cette dimension d'autodérision qui fait que quand il parle de lui-même, il y a toujours beaucoup de distance. Dans les entretiens aussi, je crois qu'il dit qu'il s'intéresse bon, toujours à Debord, mais qu'il a essayé de sortir d'une espèce
Une espèce
d'attitude
d'admiration
d'admiration passive qui était quelque chose
béate.
qu'on pouvait reprocher, voilà, aux prostituées qui simplement se mettaient dans le sillage au lieu
Il
de...
parle de lui comme un récupérateur, il parle de
Voilà.
lui, il est très très bon. Hein. C'est vraiment. Il est critiquable puisqu'il a fait le boulot, donc ça, vraiment.
Et ça, voilà. Alors, ces liens avec Gérard Lebovici, mais vous le savez peut-être, sont vraiment très compliqués. quand on lit le journal.
Oui, il faut qu'on raconte l'histoire.
Voilà, c'est ça. Si on remonte.
Il invente chez Libre, c'est lui qui trouve la poche de la collection de Sora et de. Daniel. Oui, il s'appelle Guégan.
Mais Guégan, voilà.
Gérard Guégan et Raphaël Sorin.
C'est ça, c'est chez donc, la première période, je crois, de Champs Libres.
Oui.
Et Manchette donc, trouve le titre de la collection Chute Libre, va travailler comme traducteur un petit peu, je crois, pour cette collection. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il va avoir.
Très compétent en matière de science-fiction aussi. A été
ah oui, oui, oui.
Un de la science-fiction connaît Ballard très tôt, c'est qui sont Kadic, etc. Et donc, il était tout à fait à sa place dans cette collection Chute Libre.
Ah oui, c'est un très grand lecteur.
Jean compétent en France, il était tout à fait bien.
Ah oui, c'est un grand lecteur de science-fiction. D'ailleurs, je crois qu'il a fait une pause dans son adolescence du point de vue du polar avant de le redécouvrir grâce à sa femme. Et c'est un moment où il a beaucoup lu, je crois, de SF. Et donc oui, il est assez calé de ce point de vue-là. Alors, il y a une période, si vous voulez, où quand on lit le journal, d'ailleurs, on s'aperçoit quand... J'ai mis une petite note dans les entretiens pour rappeler ça, qu'en 73, en fait, il a effectivement eu des liens avec Lebovici, Guégan aussi, et qu'à ce moment-là, Gérard Lebovici lui propose de s'occuper de ses affaires de cinéma. C'est intéressant d'avoir ça à l'esprit, parce que quelques années plus tard, Gérard Lebovici va lui écrire des lettres terribles à Manchette, qu'on peut trouver dans la correspondance de Champs Libres. Et parce qu'en fait, Manchette a été étonnée et peut-être un petit peu affectée de découvrir qu'en fait, Gérard Lebovici s'opposait au fait que dans les années 70, je ne sais plus si c'est 76, 77, que Manchette n'ait plus le droit de traduire pour Chute Libre, mais que son épouse aussi, Mélissa Manchette, n'est plus non plus le droit de traduire pour la collection Chute Libre. Donc, il s'en étonne. Il écrit à Gérard Lebovici qui lui répond une lettre terrible. Je peux en lire quelques lignes, je l'ai sous la main pour,
oui, bien sûr.
Peut-être pour vos auditeurs. Donc, ça commence comme ça. C'est 10 février 77. J'ai informé Jean-Claude Zilberstein que je ne voulais avoir aucun rapport avec vous, même par épouse interposée, fût-ce pour un travail subalterne dans une collection aussi marginale que Chute Libre. J'ai donc interdit la publication de ces travaux et j'ai demandé à Jean-Claude Zilberstein de cesser toute relation avec vous. Compte tenu de ce qu'est maintenant Champs Libres et de la ligne d'organisation générale que j'ai définie notamment par le renvoi en 1974 de salariés incompétents, arrivistes qui réalisent depuis leur programme au Sagittaire, ma décision est si claire, simple et logique qu'elle ne peut faire problème que pour ceux qui ont décidé de ne pas comprendre, car ils se sont identifiés au parti du mensonge et de la falsification. Vous êtes de ceux-là. Vous me mettez en demeure d'avoir à fournir des explications quant à ma position vis-à-vis de vous et de votre femme, etc. Et donc après, je résume un petit peu. Gérard Lebovici lui dit que Manchette vient de lui envoyer un ouvrage dédicacé avec une dédicace un peu à la Manchette, c'est-à-dire avec beaucoup de distance. Et ça n'a pas beaucoup plu, ça n'a pas du tout plu même à Gérard Lebovici, qui va reprocher à Manchette en fait d'être devenu une espèce de récupérateur et de jouer de sa position d'auteur de polar, notamment dans la presse. Il lui reproche beaucoup de s'exprimer. Et ça se termine comme ça. Lorsqu'on est ce que vous êtes, lorsqu'on le sait, l'avoue, non pas en confidence à quelques relations, mais lorsqu'on l'écrit afin que le public l'apprenne et l'apprécie, espérant par ses aveux obtenir sans doute quelques circonstances atténuantes au jugement de l'histoire. Il y a quelque incongruité dadaïste, au sens d'Amin Dada, à oser parler d'honorabilité et de raison. Monsieur Manchette, vous qui passez votre jeunesse à écrire des romans noirs ou dans les nouvelles littéraires, listes non limitatives, vous êtes bien de votre temps et aussi de votre espace. Ça, c'est un clin d'œil au petit bleu de la côte ouest. Mais du mauvais côté. Toutes ces choses, dites-vous, ne vous seront pas automatiquement pardonnées. Et moi, je dis que pire que ce que vous faites, ce sont vos aveux truqués et honteux qui méritent dès aujourd'hui un jugement sans appel. Rien provenant de vous ni des vôtres ne sera publié à Champs Libres. Pour vous rassurer, la présente interdiction ne s'appliquera pas à vos descendants, à condition qu'ils aient su dénoncer ce que déjà vous êtes et ce que vous ne manquerez pas de devenir. Et la lettre s'achève comme ça. Donc c'est effectivement, évidemment, très violent. La réponse de Manchette est intéressante parce que Manchette lui rappelle en fait que quelques temps avant, Gérard Lebovici lui a proposé ses services. Donc petite réponse de Manchette. Mon pauvre Lebovici, que vous dire? Cette lettre que vous m'avez faite a mis presque fin à l'irritation que vous m'avez causée. Vous n'êtes pas ce que vous prétendez être, et vous n'êtes même pas ce que je croyais. C'est visible et vous le voyez, d'où votre surexcitation pitoyable. Je ne prendrai donc le temps que de vous corriger sur un point. Qu'en prenant prétexte d'une dédicace qui vous appelait « puissant les Bovici », formule dont le sérieux sans mélange ne peut échapper à personne. Vous suggérez que je recherche votre protection pour soutenir ma carrière, vous perdez la mémoire, mon bon les Bovici, votre protection, vous me l'avez offerte et je vous ai dit non. Vous voyez, on est bien dans l'échange. Ouais, c'est aussi une des choses qui fait que Manchette est dans cette mouvance-là, c'est qu'il y a aussi dans le ton des lettres, si vous avez lu la correspondance, il y a dans certaines lettres un ton assez mordant.
C'est l'interquise, puis ça tient du procédé chez Debord, c'est-à-dire qu'on peut faire abstraction de l'interlocuteur et on trouve des traits rhétoriques qui vont se répéter.
C'est ça. Et voilà. Et donc, ça s'achève comme ça. Et effectivement, alors, Manchette a raison de deux manières, si vous voulez, dans les entretiens. Là, il a raison quand même, parce que si vous voulez, il rappelle à les Bovici une partie de leur histoire commune, même rapide. Il a raison aussi en ce sens que tout ce que lui reproche les Bovici, si vous voulez, Manchette s'interroge déjà dessus dans son journal, c'est-à-dire son statut de récupérateur. Vous voyez, c'est déjà en 68 qu'il écrit dans son journal. Que dans ses rapports, donc ses propres rapports à lui avec l'IS, la seule question sérieuse, c'est sa propre cohérence à lui. Donc il s'interroge déjà beaucoup là-dessus, il n'a pas besoin que les Gérald Bovici, en fait, lui pointe cet aspect-là intéressant. Lui, il a pris
un... Il se ronge, en fait, Manchette, il se ronge, parce qu'il va dire, après la mort de Lebo, que Lebo avait raison dans ses enseignes.
Voilà. Alors,
donc après, il va plutôt toujours dans le sens de la claque plutôt que...
Dans son évolution...
Je ne sais pas de qui il parle, parce qu'il est très...
Mais il constate après que oui.
Là, il est quand même très admiratif de ce qui se passe de ce côté-là, parce qu'il est très dur. Par exemple, il a croisé Cribrin, il a croisé Guattari, oui. Il a croisé Goldman.
Oui.
Et, ouais. Et là, il est sans appel. Enfin,
oui, il est très...
J'ai pas relu chez les autres ouvrages, j'ai lu que l'entretien, mais là, il est vraiment sans appel.
Oui, là, il dit que ce sont des personnes attirées par le pouvoir, en fait, et rien d'autre. Et effectivement, vous avez raison, pour Gérald et Bovici, il y a quelque chose qui se passe, qui est que son regard sur tout ça évolue avec les années, parce que le monde aussi a évolué, je pense, parce que la place de Manchette dans le polar et le marché de la culture.
On pourrait peut-être dire aussi aux auditeurs qu'il a une forte place dans le cinéma, donc
oui, alors voilà,
certaine familiarité par avec les Bovici qui doit être, quand on fréquente quelqu'un comme Chabrol par exemple, alors que les Bovici avaient beaucoup d'importance pour Truffaut, on peut imaginer que ça participe d'un monde qui est quand même très familier à Manchette.
Peut-être, mais c'est vrai que c'est surprenant quand on lit le journal qu'en 73, si vous voulez, Gérald Bovici s'intéresse beaucoup à Manchette et que 3 ans ou 4 ans plus tard, il a pas de mots assez durs, alors que finalement, Manchette écrit en 73, il a déjà écrit des romans à la série noire.
Les Bovici est quand même très, très groupie de Debord et on a des lettres que les Bovici a envoyées dont on sait quasiment avec certitude qu'elles ont été écrites par Debord.
Ah oui. Oui, oui.
Pas celle qu'il a envoyée à Manchette, mais on en a donc, oui, oui. Et ça reste quand même un groupie et d'amouré de Debord. En fait.
Voilà, et après, alors il y a des lettres sur, par exemple, dans la correspondance, vos auditeurs trouveront un certain nombre de lettres qui évoquent ses rapports avec Guy Debord. Il y a notamment des lettres, en fait, où Manchette s'en veut parce qu'il a parlé, alors il dit avec, je crois, avec un peu de naïveté, il a parlé à un journaliste peu après la mort de Gérald Bovici et ça a été déformé. Parce que l'un des vrais points communs, je pense, au-delà de ces querelles qui sont quand même un peu anecdotiques, mais il y a de vrais points communs entre l'œuvre de Manchette et notamment celle de Guy Debord. Donc moi, vous l'aurez compris, je suis beaucoup plus spécialiste de celle de Manchette que de Debord, mais je l'ai lu quand même avec intérêt pour une partie. Et par exemple, dans les liens entre Manchette et la presse, il y a vraiment une méfiance, si vous voulez... Qui est commune, je pense, enfin, en tout cas qui permettrait de faire des ponts avec l'œuvre de Guy Debord, l'idée que plus Manchette avance, c'est pour ça que par exemple il a été très frappé par la Société du Spectacle qu'il a relu, mais aussi par les commentaires sur lesquels il revient beaucoup dans la correspondance. Il a un ami d'enfance qui s'appelle Michel Canseil, à qui il dit en février 89, je crois, qu'il va écrire, enfin qu'il va lui envoyer peut-être les commentaires, enfin. Il lui conseille vraiment de lire ça, et parce que c'est un moment où Manchette dit qu'il va s'intéresser beaucoup aussi en tant que romancier à ce qu'il appelle les choses derrière les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est une pente, si vous voulez, naturelle, qui vient de ses envies, de son grand cycle de romans d'espionnage qu'il voulait faire à la fin de sa vie, Les gens du mauvais temps. C'est son travail de traducteur aussi, de romancier comme Ross Thomas. Tout ça, si vous voulez, va rencontrer aussi un peu la publication des commentaires, sa propre lecture, et va nourrir son travail de romancier. Donc, du point de vue des rapports à la presse et au spectacle en général, il y aurait beaucoup de choses à dire. Le rapport au travail aussi. Si vous avez lu les entretiens, il y a par exemple un petit questionnaire de Proust. On lui demande votre idée du bonheur. Plus personne ne travaille. On n'est pas si loin de ne travailler jamais, vous voyez, sur du point de vue du rapport au travail chez Manchette. Donc, il y a vraiment des liens qui sont intéressants du point de vue du détournement aussi, des collages. Manchette pratique énormément ça dans ses propres romans, tous ces détournements. Vous voyez, ça rejoint un peu le mode d'emploi du détournement par certains aspects de Debord et Wallman.
Aligre FM 93.1.
Il est né en quelle année, Manchette ?
En 42, décembre 42.
Debord en 31.
Voilà.
11 ans de différence d'âge.
C'est ça.
Parce qu'il y a des tas d'aspects. Hein. Il y a le cinéma classique, par exemple, qu'ils ont en commun. Blanchard, par exemple, qui est un mec de socialisme barbarie. Daniel Blanchard va écrire un texte avec Debord pendant les 9 mois où Debord sera socialiste et barbarie. Et il a publié après, très longtemps après, chez Sens et ton cas, un texte sur ses rapports avec Debord, et il le décrit comme un artiste pop. Ce avec quoi je suis entièrement d'accord. Donc je pense que le problème de Manchette, c'est un décalage. C'est ces 11 années-là. C'est le fait que l'ostracisme était posé sur le... Il y a quand Debord se fâche avec les artistes, il pose un interdit. Ça commence comme ça. Il interdit Dautremont à Albin quand il va rejoindre Durand. Enfin, c'est tout de suite. Et simplement parce que Dautremont a écrit dans la NRF. Ça m'invite. Donc, c'est un ostracisme. Il faut faire la révolution. Il faut faire de la politique. Ici, on n'a plus le droit de faire de l'art. Alors, il y a toujours des ruches pour continuer à en faire, mais il faut ruser. Et puis, il faut que c'est les fréquentations. On ne peut pas participer au cinéma. On ne peut pas participer au moment policier. En fait, il y a des interdits sur tout.
C'est ça, voilà. Et Manchette, tout en étant nourri du point de vue théorique par toutes ces références, lui, c'est vrai qu'il a choisi un autre chemin. Il le dit dans les entretiens, c'est répéter la manœuvre de Hamet, Orwell, Dick et porter la contestation dans les banlieues de l'esprit. Donc, il a choisi ce chemin-là qui, moi, me semble très intéressant. Et si vous voulez,
surtout, ce qui est très fort, c'est aussi qu'il n'a pas choisi. D'après ce qu'il raconte, la plupart du temps, il raconte que c'était contraint par les événements. Enfin, il a tendance à dire « je devais gagner ma vie, je voulais travailler pour le cinéma, je voulais faire ceci, je voulais faire ceci ». Encore une fois, son autocritique est tellement dialectique et dynamique.
Oui, ça c'est sûr.
agir en parallèle.
Ah oui, c'est un maître de la dialectique.
Contraint par les événements d'être Manchette. Un regard critique sur l'être, sur la. Bon, pour parler comme égal en soi et pour soi, là. Donc, c'est quand il réalise l'esprit réellement, il est toujours fautif. Il a quelque chose.
Oui, c'est ça. Et puis, bon,
c'est jamais ce qu'il veut. C'est très rare qu'il arrive.
Oui, c'est vrai. Mais alors, en même temps, il s'attache aussi à rappeler qu'il s'est pris quand même de. Il a pris goût à l'écriture, en fait. C'est-à-dire qu'au début, il a écrit pour faire du cinéma et après, il a fait du cinéma pour pouvoir écrire. Et dans ses romans, il a réussi à glisser quand même des choses importantes du point de vue de la critique sociale, mais pas que, aussi des éléments personnels, des références. Enfin, vous voyez, même dans des livres de commande, je ne sais pas si vous connaissez des livres qu'il a écrits sous pseudonyme, sous le pseudonyme de Pierre Duchesne, il a fait la novélisation de Mourir d'aimer et de Sacré Vendetti.
J'ai vu le film, je pense, mais...
Voilà, il a fait la novélisation. Et d'ailleurs, Mourir d'aimer, c'est pas inintéressant parce que ça se passe en mai 68 et qu'il y a, d'une certaine manière, c'est une sorte de texte sur mai 68. Et il a écrit un roman pornographique aussi, sous le pseudonyme de Zeus de Castro. Et même dans ces romans-là, vous voyez, il glisse des références à Hegel. Enfin, je crois qu'il a glissé son soi en contrebande, il dit, malgré tout. Donc,
quand il met un an et demi pour écrire des textes, pour écrire un polar qui fait quand même pas tant de pages que ça, il n'y a pas photo s'il fait la différence avec les autres. Il marque. Et puis les a priori qui se posent, les contraintes qui se donnent, sont telles que que ça se voit dans le résultat et que ça fait la différence.
C'est ça, voilà. Et puis ça fait vous voyez, du point de vue du détournement, comme, comme Debord et d'autres pouvaient plaider pour le fait de rapprocher des éléments complètement différents et leur rapprochement va créer quelque chose de nouveau, ben, dans les entretiens, c'est rigolo parce que des intervieweurs s'étonnent, par exemple, qu'au début de Nada, on a une citation du chasseur français à côté d'une citation de Hegel. Et le mariage des deux, finalement, qui est à la fois ludique et sérieux pour Manchette. Alors, il est toujours
c'est son quotidien, en fait.
Oui, bah, oui, c'est... Alors,
son quotidien, c'est le goût du détail, et puis enfin, la conscience professionnelle, disons.
C'est ça, oui.
Et puis une envie de comprendre le monde, de ne pas subir. On peut dire aussi qu'il est comme Debord sur ses goûts, comme il est par exemple très très radical avec le roman policier français, quand il dit il y a Albert Simonin et Léo Mallet. Alors je voulais justement vous demander si vous avez travaillé un peu cette question de Léo Mallet, parce que c'est quand même un personnage assez difficile, Mallet, assez compliqué. Alors est-ce que c'est très clair ce Arbolette Bolit? Le cœur à cuire chez Mallet, c'est vraiment évident pour vous?
Alors oui et non, parce que bon, l'œuvre de Mallet, elle est très très riche. Il se trouve qu'en fait, si ça vous intéresse, je vous conseille d'essayer de trouver ce texte. Il y a le Manchette a écrit une préface en fait à une réédition de Léo Mallet. La mort de Jim Lee King et cette préface qui s'intitule La part du lion est très intéressante pour voir en fait l'importance qu'a Léo Mallet dans l'histoire du roman noir pour Manchette. Parce que pour lui, en fait, Léo Mallet s'approprie davantage que d'autres auteurs l'héritage américain. Et puis, il incarne aussi une chose à laquelle Manchette est très attaché, c'est le côté littérature alimentaire qui n'a pas encore été récupéré. Parce que pour lui, le néopolar, en quelque sorte, toujours en dessous de certains prédécesseurs. Et vous voyez, je peux vous lire la fin de la préface. La récupération néopolareuse est historiquement distincte de l'isolement famélique dans lequel a été tenu Mallet. La récupération de Mallet par des études, des colloques, des adaptations cinématographiques, des préfaces et toutes les autres sortes de bavardages promotionnels ne peut pas dissimuler le tort fait précédemment à cet auteur. Elle ne peut pas dissimuler non plus le tort fait à cette société par cet auteur. Quand une opération éditoriale bien gérée, rééditant les ouvrages mineurs de Mallet, veut que je vienne, en tant que père du néopolar, saluer le père Mallet, je puis seulement et je dois absolument marquer la différence de Mallet, cet isolement qu'il a mérité et la part si bien prise que nul ne la lui pourra reprendre jamais. Vous voyez ce côté, alors il insiste... C'est Nouvelles Éditions Oswald. Il insiste beaucoup aussi sur quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur, c'est le côté un peu la colère en fait qui traverse les textes de Léo Mallet. Voilà. À l'inverse pour Simonin, alors à la fois dans certains entretiens, il dit oui évidemment, j'ai lu Simonin, ça fait partie de l'histoire du genre et donc à ce niveau-là c'est intéressant. Et en même temps dans sa propre formation à lui, c'est pas sa famille en fait littéraire.
C'est-à-dire qu'on voit Jean Gabin, on voit le Cap sur le Vif, etc. Quand on voit Simon, on voit l'argot. On voit c'est Pigalle, ça. En fait, on voit ce
c'est
que...
C'est ça, voilà.
Il met pas...
Ni pour le fond, c'est-à-dire les intrigues du milieu trop renfermées, ni pour la forme argotique, ça n'a quoi que ce soit à voir, en fait, avec les séries noires de Manchette. Lui, il a enjambé, en quelque sorte, ça pour aller se nourrir à la source américaine.
Oui, on y croit, son discours sur Dashiell Hammett, on y croit totalement, comme on croit... Oui. À sa lecture de Marx ou d'Hegel ou de l'international situationniste, c'est pas à mettre en doute, c'est certain que
oui,
il pratique, qu'il a une pratique intense.
Voilà,
et pour le cinéma ou le jazz, enfin, il est toujours d'une pertinence totale dès qu'il exprime quelque chose.
Ah oui, il faut lire, si vos auditeurs veulent, il y en a pour tous les goûts chez Manchette, hein, et les chroniques de cinéma sont formidables, Les yeux de la momie, ça a été republié aux éditions Wombat il y a 3 ans, il y a les chroniques littéraires chez...
Ouais, j'ai adoré les chroniques sur les romans policiers, là.
Ouais, c'est formidable.
Que de les lire à la suite, c'était une ouverture vraiment géniale, c'était vraiment très très bien...
Ah oui, c'est vraiment bien. Et alors, bon, pour revenir justement à Les Bobici, dans les chroniques, il se trouve que dans une chronique de Polar, a priori, bon, Manchette aime bien détourner le cours de la chronique, donc il fait ce qu'il veut globalement dans les chroniques, comme dans les chroniques de cinéma. Et au lieu de parler du Polar, en fait, à un moment donné, il explique un petit peu pourquoi il n'a pas écrit de chronique récemment, qu'il était malade, qu'il était à l'hôpital, qu'on le soignait pour son cancer. Et donc, il raconte qu'à un moment donné, il a plus ou moins sombré dans un état inconscient. Et que donc, à ce moment-là, il a vécu une espèce de délire qui est pour lui, qui prend la forme d'une descente aux enfers. Il est allé chez les morts. Et chez les morts, qui est-ce qu'il retrouve? Gérard Lebovici. Donc, il y a quelques lignes que je voulais vous lire. L'éditeur assassiné, Gérard Lebovici, était là, furieux lui aussi, notamment parce qu'on l'a tué, que sa femme est morte quelques temps plus tard et que sa maison d'édition avait sombré quelques semaines auparavant. Je rêvais qu'il décidait de passer sur la querelle que nous avions eue, dans laquelle je reconnaissais d'ailleurs qu'il avait eu raison sur l'essentiel. Il rencontrait chez les morts plus d'intelligence que chez les vivants. Il était le principal organisateur d'une révolte générale des morts qui, victime de la barbarie régnante, s'apprêtait à remonter à la surface pour remettre de l'ordre. Là, vous voyez, une espèce de scène absolument...
Du Dante,
voilà, c'est ça.
On est chez Dante, on est vraiment...
Voilà, c'est ça. Et des retrouvailles posthumes assez touchantes avec Gérard Lebovici, parce que ça montre un aspect de Manchette auquel je suis assez attaché. Et là, je pense qu'il y a une différence avec Guy Debord quand même. C'est que il y a chez Manchette une forme d'humanité immédiate dans l'échange et de générosité qui passe. Alors, elle passait chez Debord aussi, enfin, je ne veux pas fermer, plus spontanément, je pense, chez Manchette. Et ce n'est pas du tout le critique hautain, froid et sec. Il peut l'être, mais il n'est pas toujours. Dans sa correspondance, ça se voit aussi. Et là, dans cette évocation posthume de Gérard Lebovici, il y a vraiment quelque chose que je trouve assez émouvant. Au-delà de la farce, parce que c'est un peu drôle aussi, il s'amuse un peu. Alors, à un moment donné, il se réveille dans l'hôpital, donc les infirmières sont complètement paniquées. Il leur demande du papier et des crayons pour aller, pour retourner chez les morts et être un peu une espèce de...
C'est quand même une farce tragique parce qu'il est à l'hôpital.
Bien sûr, voilà.
On va devoir se quitter.
Bien sûr, oui.
On enchaîne pendant des heures, c'est vraiment bien. Écoutez, je vous remercie.
Mais c'est moi, merci beaucoup.
Au revoir et au revoir. À la prochaine, j'espère.
À une prochaine, bien sûr, au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc, on est à la bourre ce matin, c'est vraiment formidable, j'adore. Et j'en profite pour remercier Sébastien François qui est derrière la vitre, qui me fait des signes, Enrico Mastro Giovanni, Amazir Amadid Guest. Merci à vous autres. Et maintenant, je passe la parole à Patrice Van Hersel qui vient d'arriver avec un petit livre tout neuf et très très beau. Une petite chose éditée par 21 ou XX1 bis qui s'appelle C'est pas la mort et dont Patrice va nous expliquer de quoi il s'agit. À toi, Patrice.
Eh bien, écoute, Yves, il y a un sujet qui m'a tenu en haleine il y a une quarantaine d'années quand j'étais à Actuel. C'était une série de reportages pour Actuel qui avait fini par donner un livre qui s'appelait La Source Noire et qui était paru chez Grasset et qui avait comme sous-titre Révélation aux portes de la mort. Et c'est toute une histoire qui serait très très long. Je vais essayer de la résumer en trois phrases. À l'époque, avec Bizot et la bande d'Actuel, on s'était remis à s'intéresser à la science. Et moi, j'étais particulièrement passionné par la neurochimie. C'est là où on est en train de parler. Et ben, il se passe, toi, tu m'écoutes ou tu fais semblant de m'écouter. Et moi, je parle, je fais semblant de parler. Et il se passe en nous des symphonies chimiques extraordinaires, hein, avec des produits qui, à côté desquels les drogues du petit commerce font pâle figure. Et donc, ça nous intéressait beaucoup. Chaque pensée que tu as, chaque sentiment, chaque émotion, chaque état intérieur est relayé par une chimie très puissante. Et quand j'ai appris que d'après la presse allemande, c'était parce que j'étais le germanophone de la bande, que des visions tout à fait extraordinaires que des gens auraient eues alors qu'ils étaient presque morts, cœur arrêté, mais on les ranime, on ranime la personne. Et tu sais qu'à notre époque, on ranime des millions de gens, ce qui n'a existé dans aucune autre culture que la nôtre. C'est une exclusivité. Le SAMU, en gros, il est mondial. Et tous les jours, on ramène des milliers de gens qui, normalement, auraient dû mourir. Et parmi ces gens, il y en a environ un cinquième, à peu près 20%. Il faudrait plus de recherches, il faudrait plus de moyens, mais en gros, c'est un cinquième qui rapporte une histoire hallucinante. Puisqu'ils ont... Ils ont connu l'amour total, un état de bien-être, l'omniscience. Ils ont visité un autre univers. Et donc, on en avait vaguement entendu parler, mais pour nous, ça faisait partie un peu des trucs des gogos pour gens faibles d'esprit, quoi. Et ben, tout d'un coup, on apprenait que ben, si, ça existe, mais c'est explicable par la chimie du cerveau. Et donc, je fonce aux États-Unis, c'était mon premier voyage aux États-Unis, je tombe malheureusement sur des scientifiques. C'était la première fois que je tombais sur des matérialistes idéologiques, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien découvert du tout, ils n'avaient fait aucune recherche, mais ils disaient « ça doit bien être ça ». Ça doit bien être ça, et on a intérêt à vite découvrir, parce qu'il y a des délires, il y a de l'obscurantisme qui menace, c'était le début du New Age, et il faut vite prévenir, en quelque sorte, faire un coupe-feu, et dire, bah, c'est évidemment des hallucinations, et ces hallucinations, on va bientôt les expliquer. Simplement, ils n'expliquaient rien du tout. Et j'étais très emmerdé d'ailleurs parce que ça, il n'y avait pas de reportage à faire puisqu'ils n'avaient rien découvert. C'était juste marrant d'ailleurs parce que le type, il me disait dans les années 60-70, c'était LSD. Et dans les années maintenant, dans les années 80, ça va être NDE, Near Death Experience, expérience de mort imminente. Et si vous aviez pris du LSD, monsieur, et là je lui dis, mais j'en ai pris. Ah bon, bah alors vous savez que c'est un peu pareil. Je dis, bah oui, pas tout. Ok, d'accord. Et donc,
vous écoutez Aligre FM 93.1.
Ces scientifiques très, très, très idéologiquement marqués qui n'avaient fait. Donc, ils n'étaient pas vraiment des scientifiques parce qu'ils n'avaient pas fait de recherche. Ils n'avaient, hein, m'ont mis sur la piste de ceux qu'ils appelaient les obscurantistes et que je suis allé voir. Et c'était très, très, très passionnant parce que tout d'un coup, c'était des gens qui disaient partout, dans des campus, des hôpitaux, j'ai fait un tour d'Amérique absolument génial, et qui disaient, mais écoutez, on ranime des gens dans le monde entier, il y en a environ, à l'époque, on ne savait pas encore trop le pourcentage, mais il y en a un pourcentage qui raconte une histoire hallucinante qui surtout a changé leur vie. Allez les voir, vous en avez en France, vous avez un SAMU en France, vous savez ranimer des gens, oui, ben alors, enquêtez, faites votre enquête. Et donc, ça a démarré pour moi une série de reportages formidables. Mon livre, quand il est sorti, La Source Noire, en 1986, il a eu un accueil formidable des médias, très étonnant, très, très étonnant. Ça a donné un best-seller. C'est le seul de ma vie, malheureusement. J'ai fait d'autres livres qui n'ont pas marché comme ça. Mais c'était très bien accueilli par la société française, qui était en pleine ouverture. C'était le moment où on ouvrait les premières unités de soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on... la mort n'était plus aussi tabou. On était d'accord pour dire qu'on, parmi les rôles que doit jouer un humain, bah, il y a d'accompagner ses congénères dans les derniers instants. De là à aller faire l'hypothèse qu'il y a des gens dont le cœur s'est arrêté et qui ont ramené une expérience fabuleuse, qui est la plus grande expérience de leur vie, et qui, 40 ans plus tard, vous la racontent comme si ça s'était passé la veille. Les scientifiques, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Et à l'époque, j'avais fait pas mal de télé et de radio, et je me trouvais face à des scientifiques qui disaient, bah, y a un truc, c'est intéressant, mais on va bientôt trouver, c'est un neurotransmetteur, c'est un manque d'oxygène, c'est un truc, on va l'expliquer. Et j'avais cru me tenir au courant, mais voilà que il y a un an et demi, cette petite maison d'édition de la revue 21 me dit « Et si tu retournais sur le terrain ? Et si tu faisais un petit livre ?» Alors là, c'est... Et donc, j'y suis allé et j'ai été très agréablement surpris. Parce que je suis tombé cette fois-ci sur des scientifiques modestes, humbles, des pointures. Hein. On a organisé un colloque. Il y a une amie qui s'appelle Laurence Lucascali, qui est psychiatre, psychanalyste, qui a monté le fonds Conscience sans frontières et qui a réussi. Moi, j'ai animé le colloque avec elle. C'était en 2020. Oui, ça, c'était en 2020. On a fait un colloque où sont venus Axel Kahn, Étienne Klein, Amine Benyamina, l'écrivain Alexandre Jardin nous a fait un petit tour. Toutes sortes de médecins et surtout la grande équipe belge de Liège qui est le Coma Science Group de l'hôpital universitaire de Liège. C'est la plus grosse équipe qui travaille là-dessus, sur ces états de conscience modifiés. Ils étudient les comateux, ils étudient les gens qui font des locked-in syndrome, ils étudient l'hypnose, bien entendu, ils étudient tous les états possibles et imaginables. Et c'est eux qui ont mis un casque sur la tête de Mathieu Ricard, le moine, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans son crâne pendant qu'il est en méditation. Ils l'ont fait aussi avec Corinne Sombrin. Corinne Sombrin, c'est cette jeune Française qui est devenue chamane en Mongolie et qui entre en transe quasiment... Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est en transe? Et évidemment, ils ne pouvaient pas ne pas étudier les gens qui rapportent avoir, alors que leur cœur était arrêté, donc quand le cœur est arrêté, en général, le cerveau, il n'emmène pas large. Et pendant cet épisode, ils ont vécu l'expérience fabuleuse qui a changé leur vie, ça a changé leur système de valeurs. Ils sortent de là, ils changent de métier. Souvent, ils deviennent infirmiers, infirmières, des trucs comme ça. Pardon. Et ben leur conclusion, et c'est marrant parce que leur chef, Stephen Lawrence, que j'avais rencontré il y a 40 ans, je m'étais trouvé à la RTB, la télévision belge. Il était face à moi, il était gentil, mais il m'avait mis, parce qu'avec son autorité de scientifique, moi je ne suis qu'un journaliste, il m'avait mis KO debout, parce qu'il m'avait dit, mais tout ça c'est quand même des hallucinations. Et on va les expliquer. Il disait comme l'Américain, si tu veux. Mais il était... Et 40 ans plus tard, je le retrouve à la tête du Coma Science Group de Liège. Grosse équipe, très pluridisciplinaire, il y a à peu près de tout. Et il a complètement changé. Et l'ensemble, j'ai l'impression, de la communauté a changé. Et c'est bien résumé par un psychiatre français spécialiste d'addictologie au Kremlin-Bicêtre qui s'appelle le professeur... Amin Benyamina, qui, de concert avec un philosophe des sciences qui s'appelle Michel Bitbol, ils étaient tous à notre colloque, et qui disent, en fait c'est Michel Bitbol qui le conceptualise, il dit il faut cesser d'essayer de tirer des conclusions métaphysiques, il faut faire de la phénoménologie. Et faire de la phénoménologie, ça veut dire, comme disait Husserl, mais comme disait Merleau-Ponty, comme disait Sartre, comme disait Camus, c'est, écoutez, l'alpha et l'oméga, ça nous échappe. Écoutons les expériences vécues. Écoutons avec bienveillance les gens qui sont sortis de là, mais quand même, il y en a des millions et des millions qui sont sortis de là, complètement transformés. Écoutons-les. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce que essayer de prouver quoi que ce soit, et d'ailleurs ceux qui essaient de prouver dans l'autre sens, les parascientifiques qui disent si, il est sorti de son corps, il y en a plein qui disent c'est incroyable, j'étais sur la table d'opération, puis tout d'un coup mon cœur a lâché, moi je suis sorti de moi-même, hein, ils disent ça, j'étais au plafond, et le docteur qui avait du scotch jaune sur la lunette, il a dit merde, il nous échappe. Il y en a un autre qui est arrivé avec une chinoise, une infirmière chinoise ou une infirmière antillaise, tu vois, et ils m'ont fait ceci, cela, ils décrivent. Et quand tu essayes, à la manière d'un détective, à la manière d'un policier qui mène son enquête, c'est assez difficile. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, un grand hôpital en Angleterre, à Southampton, qui a accepté de jouer le jeu de ceux qui disaient, bah alors, ils disent qu'ils montent au plafond. Et bah alors, mettons au plafond. Ils l'ont fait ils ont mis 150 cibles dans tous les blocs opératoires de ce gros hôpital, et ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que, pourquoi ? Ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que la personne, quand une personne a le cœur qui s'arrête, et encore une fois, il y en a environ 20% qui racontent une histoire dingue, l'histoire qui les a marqués à jamais. Ils ont plus peur de mourir. Hein. J'ai pas le temps de donner tous les détails, mais c'est une expérience qu'on pourrait dire hautement mystique. Hein, on peut pas dire autrement. Quand tu dis, mais vous avez regardé la cible en haut parce qu'on voudrait contrôler que ce que vous dites est vrai, eh ben ils s'en foutent, la cible. C'est-à-dire que tout se passe comme si, je sais pas quoi, la conscience hors corps, l'âme, je sais pas comment tu peux appeler ça, ben elle s'en tape des cibles. Elle va plutôt voir son amoureuse ou la personne qui compte ou son chien. Il y a des tas d'histoires avec des animaux. Et donc, quelque part, le phénomène échappe. Et c'est ça, la nouveauté de ce petit livre que me fait faire les éditions 21, c'est pas la mort, et ben c'est de dire peut-être qu'on a un peu grandi en sagesse. C'est-à-dire peut-être qu'effectivement, on devient phénoménologue, on écoute, on ne sait pas, on ne prétend pas savoir. Si on sait, on le dit. Mais sinon, on ne dit pas, non, attendez, circuler, c'est forcément une hallucination, la peur. Alors, quelqu'un me demandait récemment, mais comment c'est possible ? Dans une autre radio, on me dit, mais si des millions de gens, aujourd'hui, dans le monde, grâce aux techniques de réanimation, parce que ça existait aussi jadis, mais il y en avait, ça arrivait une fois dans un siècle, tu vois, dans chaque continent, quoi. S'il y a des millions de gens qui vivent un truc dingue, qui prouve que la conscience
vas-y.
Échappe et d'une certaine façon n'est pas le produit du corps, mais c'est peut-être l'inverse, eh bien alors ça devrait attirer des milliers de chercheurs. Et effectivement, la question se pose. Et là, et quelque part, je me dis que autrefois c'était les religions qui s'occupaient de ça. Maintenant, c'est censé être la science. Simplement, qu'est-ce que tu veux ? Si on annonce que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est ronde, c'est énorme à avaler. C'est énorme. Et
bon, ça sera ta conclusion.
Voilà.
Donc, Patrice Van Hersel, C'est pas la mort, édition 21, 9 euros. Nous passons l'antenne à Cause Commune. C'était La vie est un roman sur Allegre FM 93.1. Et c'était très bien ce matin. À la semaine prochaine.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.